Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà, je prends le relais derrière notre cher Grégoire Daricot. Il est 16h31. On a juste que 15 minutes de retard sur le planning, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on prenne le temps. C'est le pari qu'on a fait avec vous, les amis, de vous donner toutes les informations. Je vous rappelle qu'on est également sur un autre salon qui est le congrès annuel de l'immobilier à la FNAIM, au Carousel du Louvre. C'est Olivier et ses équipes qui est de l'autre côté. Et on navigue, bien évidemment, avec les flux, vous l'avez regardé, sur les podcasts que nous avons livrés tout au long de cet après-midi. C'est la première journée, édition 2024 du CIMI, et on essaye d'égrener tous les sujets. Je vous propose qu'on essaye de faire un focus, justement, sur les bonnes pratiques, à la fois résilientes en matière de consommation et d'empreinte carbone, de modes constructifs innovants également, mais aussi de réfléchir sur la révolution même des usages en tant que tel. Et pour cela, on a besoin des points de repère. Le point de repère, ce que j'appelle moi les points de repère, on a besoin d'avoir ce que j'appelle des accompagnateurs, des personnes qui établissent des processus qui nous permettent de mesurer l'efficacité de tous ces modes, bien évidemment. C'est un vrai sujet en soi, donc on appelle ça les certificateurs. Ils sont au nombre de 4 au niveau national. Je vous propose justement une table ronde autour de ces sujets avec des grands professionnels de l'immobilier, qu'on va essayer de vous donner des clés de lisibilité, d'essayer aussi de vous donner des points de repère extrêmement importants avec cette révolution que moi je qualifie, on en a parlé d'ailleurs hors antenne avec l'un de nos protagonistes, d'anthropologique, bien évidemment. En l'occurrence, on a fait appel à Prestataire, qui est donc l'un des certificateurs majeurs en France pour le bâtiment. J'ai le plaisir d'ailleurs, à cet égard, d'accueillir Hugo Zamboran. Comment ça va, Hugo ?
Mais ça va très bien.
Responsable du développement commercial.
C'est ça.
Voilà, avec l'accent du Sud, comme vous l'avez remarqué. Ah. Voilà.
On n'oublie pas les origines.
Ça met de la musique sur les mots, ce qui est très bien en ce moment, puisque je peux vous dire que quand on voit le temps qu'il fait dehors, on est d'accord. Bon, merci en tout cas d'être avec nous, responsable du développement commercial. On a deux grands professionnels avec nous et je suis très content qu'ils soient avec nous. On a le président de WO2, Marc Lafont. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Je suis ravi d'être avec vous. Ça va promettre un bel échange. On va essayer de prendre de la hauteur. On va faire en sorte qu'on ne nous perde pas de vue non plus, hein, parce qu'on peut bien prendre de la hauteur, mais si on nous perd de vue, c'est plus la... Voilà, alors voilà, la magie de la langue française, il s'appelle Damien Patriarche, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Et il a son entreprise qui porte le nom de Patriarche.
Tout à fait, entreprise familiale.
Est-ce que vous saviez que l'un des plus grands négociants en vin français s'appelle le Patriarche ?
Tout à fait. C'est sûrement des cousins éloignés. D'ailleurs, mon père est né en Bourgogne. Donc
absolument. Ils sont installés à Beaune depuis 1837. Des plus grands négociants et leur savoir-faire tourne autour du pommard, notamment. Et ils avaient mis en place, ce qui a fait leur fortune, vous savez, ces ersatz de vin gazeux, vous savez, le vin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ils ont vendu ça en quantité industrielle, qui leur a permis d'avoir une grande indépendance. Et vous savez où ils sont logés ? Rue de l'Échanson à Beaune, dans l'ancien couvent des Carmélites.
Tout à fait. Magnifique. Je me suis trompé de branche familiale, je crois.
Magnifique, 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 magnifique. C'est un ami à moi qui a dirigé cette entreprise, puisqu'il a été, elle a été vendue au groupe Castel. Vous savez, groupe Castel, c'est connaissez groupe Castel, Nicolas, les eaux minérales, les bières, etc. Enfin, tout ça, toi. Donc voilà. Merci d'être avec nous, Damien Pratt.
Merci à vous.
Le plaisir quand même de voir. Hein, voilà. Alors, messieurs, on est sur un sujet, Marc. On en a beaucoup parlé. Et je pense qu'on ne le redira jamais assez. On vit un moment clé dans le mode constructif. Je vais même aller plus loin. WO2, d'ailleurs, vous allez nous expliquer un petit peu en quelques mots et présenter le groupe. WO2 est devenu le spécialiste, finalement, de la construction bois, en ossature bois. Vous avez marqué les esprits avec Arboretum, hein, qui est un formidable projet, incroyable. Hein. Il fallait vraiment vouloir y aller. Hein. Ouais. Et un projet extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant. Entre mixité d'usage, notion de l'espace, ce côté presque asymétrique que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, mais on parlera parce qu'il y en a eu d'autres. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse entre nous, qu'on fasse un peu la revue justement de comment le métier de promoteur, hein, basiquement, hein, qui est un métier particulier et qui est un métier d'ailleurs très chahuté en ce moment. Il faut quand même être réaliste, hein. On a 40% des promoteurs qui vont disparaître là et qui ont disparu entre 2024 et 2025, pour être très clair. Hein. C'est 133 disparitions. Et sur les 66 000 défaillances constatées à fin octobre, 25% sont issus de l'immobilier et de la construction. Voilà, ça calme.
Ça pose le débat.
Voilà. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup aimé votre réflexion, Marc, quand on préparait l'émission, en disant, finalement, tout bouleversement est propice au changement et quelque part, ça nous pousse à nous dépasser. Et c'est vrai que chez WO2, vous avez un peu marqué les esprits avec justement cet état d'esprit. Donc, je vous propose qu'on commence par vous.
D'accord, bah très bien.
Pour présenter d'abord le groupe, okay. Et puis ensuite on engage un peu la conversation.
Ok, très bien. Donc vous l'avez dit, WO2, on est connu comme spécialiste de la construction bois. On est une boîte qui développe et commercialise des bâtiments bas carbone. Donc qu'est-ce que c'est un bâtiment bas carbone ? C'est un bâtiment qui divise par un facteur 2 à 3, on essaye d'aller vers 4, son empreinte carbone par rapport à un bâtiment traditionnel. Et en effet... chez WO2, on a commencé par calculer le carbone. On s'est rendu compte que les matériaux de construction étaient extrêmement émissifs et on a décidé de construire avec des matériaux bas carbone. Et notamment de remplacer le béton et l'acier par du bois. Pourquoi ? Parce que le bois, ben, c'est un des seuls matériaux qui permet de stocker du carbone plutôt que d'en émettre. Et donc on est devenu assez logiquement spécialiste de la construction bois, en bois massif CLT, donc du lamellé collé contrecroisé. Et on est devenu également spécialiste de restructuration bas carbone, c'est-à-dire qu'on réhabilite également des bâtiments avec cette notion de calcul de l'empreinte carbone. Et le projet Arboretum dont vous parliez est en quelque sorte notre vaisseau amiral. C'est un projet de 126 000 m² à Nanterre-la-Défense qui est finalement le symbole de cette révolution. Oui. Et c'est le symbole de cette révolution de l'immobilier bas carbone. C'est-à-dire que c'est à la fois un projet qui est extraordinaire par sa qualité d'usage, c'est un parc privé de 6 hectares, c'est en termes de qualité de produit, de qualité des espaces de restauration, de qualité des espaces de service, quelque chose qui est totalement inédit aujourd'hui dans le paysage immobilier francilien. Et puis c'est également une révolution, parce que c'est un projet qui a été conçu et réalisé avec cette obsession de diviser par deux son empreinte carbone par rapport à un projet traditionnel. Donc on l'a fait évidemment en structure bois en ce qui concerne la phase de construction. Et puis on s'est beaucoup aussi intéressé à l'exploitation de l'arboretum, grâce notamment à 10 puits de géothermie. Et donc on a des bâtiments qu'on veut très bas carbone pendant leur phase de construction, très bas carbone pendant leur phase d'exploitation, et dans lesquels on veut que les gens se sentent mieux qu'à la maison.
Extrêmement clair. Vraiment, je vous invite à découvrir ce fabuleux. Il fallait oser, hein, mais on en reparlera tout à l'heure, parce que vous l'avez dit, vaisseau amiral, moi je dirais c'est un totem. Hein. Ouais. C'est iconique.
Tout à fait. Bah,
mais c'est même iconique en Europe. C'est-à-dire qu'on a eu des correspondants un peu en Europe qui s'inspirent du projet Arboretum un peu partout en Europe, en Allemagne, en Italie, en Espagne.
Oui, tout à fait. Le projet est iconique. Je pense que c'est la raison pour laquelle le président de la République l'a inauguré cet
été. Bien sûr.
Aucun président de la République française n'avait inauguré un bâtiment bureau depuis Bercy en 1989.
Oui, voilà, oui, bah, Bercy, oui, voilà. On parle, oui, Bercy,
c'était un immeuble de bureau.
Sauf que l'Arboretum, voilà. C'est pas le siège de Bercy.
Mais qu'est-ce que c'est l'Arboretum, en fait ? Et pourquoi est-ce que le président de la République vient inaugurer l'Arboretum ? Parce que c'est le symbole qu'il est tout à fait possible de concevoir un futur dans lequel on continue à construire, on continue à se développer, on continue à proposer aux gens des immeubles qui sont de plus en plus performants en termes de qualité d'usage. Et pour autant, on arrive à réduire l'empreinte carbone de ce qu'on fait et on arrive à avoir des bâtiments qui ont une trajectoire qui est compatible avec les 1,5 degrés des accords de Paris. Et c'est ça notre obsession, c'est ça notre raison.
Mais justement, quand on voit aujourd'hui, mais on va en reparler parce que les accords de Paris étaient, c'est la COP21, je crois que c'est même Alain Fabius qui présidait la fameuse COP21, qui a eu pour effet finalement de faire une véritable prise de conscience. Je ne suis pas sûr que la trajectoire qui a suivi nous amène au résultat. Mais voilà, c'est sans vouloir provoquer le débat, mais voilà, on n'est pas non plus tout à fait...
Finalement, chacun prend ses responsabilités.
Mais oui,
les accords de Paris ont eu le mérite.
Entre la Chine et maintenant les États-Unis qui vont se ré-désengager... voilà, c'est compliqué.
De toute évidence, il y a une situation géopolitique mondiale qu'on ne contrôle pas.
Ah, mais on n'y sera pas.
Et encore une fois, chacun prend ses responsabilités. Et peut-être qu'on n'y sera pas. Le sujet, c'est quels sont les leviers dont nous, on dispose à notre échelle.
Pour aller faire cette tendance.
En tant qu'entreprise, en tant qu'individu.
Oui.
Et est-ce qu'il est possible, sur ce secteur de l'immobilier, qui certes, à l'échelle de ce que peuvent être d'autres pays, et peu de choses, mais c'est quand même juste un tiers de l'empreinte carbone de la France.
Ah oui, c'est clair.
Lorsqu'on prend à la fois tout le carbone qui est émis pendant la construction des immeubles et derrière le carbone qui est émis pendant l'exploitation du parc existant, il y a un vrai enjeu rénover les bâtiments existants, et il y a un vrai enjeu à révolutionner complètement la manière dont on construit. Donc oui, peut-être que ça peut...
Bah, c'est ce qui a fait le succès de WO2. C'est ce qui avait fait le succès de Woodeum au début, parce que WO2, c'est quand même... Bon, Woodeum, au départ, par IA, vous avez créé finalement un concept intéressant, comme la façon dont finalement ça a eu des incidences dans la réflexion de tous vos confrères, justement. On va continuer sur le sujet, justement. Damien Patriarche, vous êtes promoteur immobilier.
Aussi.
Vous travaillez aussi. Alors, justement, expliquez-nous, le groupe Patriarche, vos domaines d'activité.
Alors, tout à fait. Nous, la spécificité, c'est qu'on est architecte avant tout. Et puis, on s'est rendu compte que pour mieux faire notre métier, de l'architecture...
Ah, vous êtes d'abord architecte.
Ça. En fait, mon grand-père était architecte. Il s'est installé en 1960. Et il avait déjà cette vision-là, que l'architecture n'a de valeur que si elle est construite. Donc, très vite, on s'est mis à être ingénieur, à être contractant général. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que l'architecture, elle avait de valeur que si elle était construite et habitée. C'est encore plus vrai aujourd'hui quand on voit des tas d'immeubles de bureaux vides. À un moment donné, l'usage, comment on utilise le bâtiment, quelle intensité d'usage on peut donner au bâtiment.
Quel gâchis de mètres carrés quand on voit que les Français peinent à se loger. C'est dramatique.
Ouais, là, on marche sur la tête. Et donc, l'usage, c'est primordial dans le bâtiment. Donc, nous, on est allé jusqu'à exploiter nous-mêmes des bâtiments en se disant, finalement, on peut avoir un impact plus fort quand on maîtrise l'identification d'un besoin, du dessin, de la conception, de la construction et de l'exploitation du bâtiment pour qu'on puisse le remplir comme il a été imaginé et qu'on puisse le faire vivre, évoluer dans le temps et que tous ces usages aient été autant que possible prévus dès le départ.
Donc finalement, par la réflexion, presque de façon empirique, vous êtes passé du statut de l'architecte à finalement travailler sur l'ingénierie, travailler sur la maîtrise d'ouvrage, travailler sur la promotion, sur la distribution. En fait, vous avez intégré tous les métiers.
Ça, la volonté, c'était vraiment d'être capable d'intervenir sur la totalité de la chaîne immobilière. Alors, pas tout le temps seul. L'idée, c'est qu'on connaît l'ensemble des métiers et puis on travaille de manière très ouverte, un peu comme une plateforme accessible à tout le monde pour qu'on travaille ensemble.
Sur quelle classe d'actifs ? Résidentiel, tertiaire ?
Alors, historiquement, essentiellement sur les sujets industriels, tertiaires. On a fait aussi, après, avec le temps, beaucoup de logements, de sujets hôteliers. On exploite même des restaurants, pour vous dire.
Vous les exploitez ?
Oui. Alors, c'est pas moi qui fais la cuisine, je vous rassure.
Ah oui, oui.
Non, par contre, je me débrouille en cocktail.
On arrive à la pâtisserie.
Mais on va bien s'entendre, finalement. Voilà, je vous trouve très sympathique, d'un seul coup. C'est intéressant parce que, de manière empirique, vous avez intégré la chaîne de valeur. Aujourd'hui, ça représente quoi, Patriarche ?
Alors, aujourd'hui, c'est environ 600 personnes, plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Et puis, on travaille en France, en Europe, en Amérique du Nord et puis sur le continent africain.
PME familiale.
C'est ça.
PME familiale qui s'est transmis de génération en génération.
C'est ça.
Vous êtes aussi architecte de formation ?
Oui, je suis aussi architecte.
Donc grand-père architecte, papa architecte, petit-fils architecte.
C'est ça. J'ai aussi une sœur architecte aussi.
C'est extraordinaire. S'il y a un bal de promo, je suis candidat. Hein. Merci effectivement pour cette présentation. La notion de certification, Hugo, j'aimerais qu'on replace bien dans l'idée. Elle est extrêmement importante parce que il y a plusieurs sujets qui entrent en ligne de compte. Est-ce qu'on vit ou pas une inflation normative sans précédent, qui pourrait même franchement s'apparenter à une forme de matraquage de contraintes, etc. Non mais vos collègues, vous le savez, le vivent comme ça. On a remplacé le T par le E, on est passé de la RT 2012 à la RE 2020, maintenant on est déjà sur... on va être à 2028, on va être ensuite à beaucoup plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment finalement une entreprise qui est aujourd'hui certificateur avec toutes les contraintes que vous avez également, parce que en tant que certificateur, vous devez montrer patte blanche quand vous faites, parce que vous êtes également le tiers de confiance dans tous les processus et tous les indicateurs de bonne pratique sur le bâtiment, mais pas que. Comment on accompagne ce mouvement qui est en train de se développer de façon très importante quand on a de manière très iconique des WO2 qui ont inventé carrément un métier, parce qu'à Montbou il n'y avait rien, hein, je vous le dis, mais ça vous le saviez déjà.
Il y avait des promoteurs, il n'y avait pas cette notion de promoteur bas carbone, c'est-à-dire que la profession était plutôt focalisée sur le kilowattheure au mètre carré,
c'est ça.
Et beaucoup moins sur le CO2.
Exactement. Vous êtes le premier à l'avoir fait. Moi j'ai pas d'équivalent là-dessus, non, mais tant mieux.
On est pionnier dans le sens où on a été les premiers véritablement à le calculer dans un premier temps.
Oui.
On a été membre fondateur de l'association BBCA qui s'est mis véritablement à établir une méthodologie de calcul qui intègre l'empreinte carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, donc à la fois la construction, 50 ans d'exploitation et puis la fin de vie. Et c'est en calculant qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait optimiser très largement.
Bien sûr. Hugo.
Quand on parle de certification, tout d'abord, quand on parle de prestataire, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de certifier du coup un cahier des charges. Ce cahier des charges, il va être là en fonction de chaque thématique. On prend l'exemple de WO2 ici, qui parle du bas carbone. On va en avoir qui vont être sur de la rénovation, qui vont être plus sur le volet énergétique. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de certifier la diminution énergétique, la diminution sur le bas carbone, sur l'environnement, sur l'aspect sociétal aussi des bâtiments. Et aujourd'hui, prestataire, nous sommes et nous faisons partie donc des 4 organismes accrédités par le COFRAC, donc Comité français d'accréditation en France, pour pouvoir certifier à la fois les logements neufs, les logements rénovation, mais aussi, donc, pour le coup, on est là aujourd'hui...
Pour les actifs tertiaires.
Exactement. Également. Tertiaire sur le tertiaire neuf, le tertiaire rénovation, mais aussi le tertiaire exploitation, qu'il ne faut pas oublier.
Alors, justement, en quoi ce que vous faites permet aussi de consolider, d'accroître, de définir aussi la valeur? Parce que moi, j'ai une question néophyte. Hein. Vous me répondez, vous me dites, si j'ai dit une connerie, vous me le dites. Il y a un cahier des charges.
Oui.
Ensuite, vous mettez des points de contrôle qui vous permettent de dire, là, on est à tel niveau, tel niveau, tel niveau.
Exactement.
D'accord. Est-ce que c'est standardisé ou est-ce que c'est une mise en œuvre spécifique pour chaque type de cahier des charges? Je prends un exemple. Marc a un projet aujourd'hui qui est en cours. Il a un cahier des charges extrêmement précis, des objectifs extrêmement précis. Est-ce que là, vous mettez en place quelque chose de spécifique? Ou est-ce qu'il y a des modes standards qui permettent de dire, ce que fait Marc ou ce que fait Damien dans ses process, ça correspond bien à cette norme, et donc du coup, parce que l'avantage d'avoir la certification, bien évidemment, à l'égard de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est aussi un gage de bonne pratique, et ça, on en a besoin, parce que ça, c'est un effet de régulation.
Le but aujourd'hui chez Prestataire, et c'est comme ça aussi qu'on se démarque de nos concurrents, c'est que nous voulons certifier la performance énergétique, environnementale et sociétale au-delà de la réglementation. Donc tout ce qui est réglementaire, déjà chez Prestataire, c'est pas à nous d'aller le valider. Nous, on veut chercher justement des exemples comme on est en train d'en parler sur du bas carbone pour aller valoriser des démarches qui sont qui vont chercher les seuils 2025, 2028, 2031.
C'est-à-dire que vous allez même anticiper ce qui pourrait se produire.
Exactement.
Vous allez plus loin que la contrainte elle-même, finalement.
C'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse... Un promoteur, il faut qu'il puisse anticiper la réglementation. S'il est tout juste à la réglementation aujourd'hui, demain, on arrive en 2025, ça va évoluer, ils vont se retrouver malheureusement à ne pas pouvoir bâtir de nouvelles opérations. Donc le but chez Prestataire, c'est aussi de les accompagner dans ce rôle de la certification pour qu'ils aillent chercher toujours au-delà de la réglementation pour qu'ils puissent anticiper justement ces futures réglementations, les futurs seuils qui vont arriver.
Aujourd'hui, quel est l'or noir du promoteur, Damien? Alors, vous avez compris, je vous provoque littéralement, mais c'est intéressant parce qu'on va se poser la bonne question. Vous avez compris où je voulais en venir.
Alors, en fait, ça a beaucoup changé ces dernières années, voire ces derniers mois. On avait une rentabilité, c'est ce qui permet de calculer le prix de vente d'un bâtiment qui oscillait entre 3,5 et 6% suivant les régions où on vendait.
Exact.
Ça a augmenté énormément ces derniers temps et on n'a même plus de boussole pour nous donner un prix. Donc avant, le petit avantage bas carbone, il se monétisait facilement. C'est-à-dire que vous avez un petit décalage de 0,1%, même sur la rentabilité. D'un seul coup, on dégageait un potentiel dans le bilan de promoteur énorme pour avancer. Donc c'était facile de se dire, je fais un effort bas carbone. Au-delà de toutes ses convictions propres, il y avait un intérêt financier à le faire. Maintenant, c'est plus un intérêt financier à le faire, c'est la survie de l'opération elle-même. C'est-à-dire qu'une opération qui n'est pas bas carbone, elle n'intéresse plus personne. Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement de bureaux, par exemple, qui sont vides de partout, que si on construit, il faut construire les bureaux, pas d'aujourd'hui, pas de demain, mais d'après-demain. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à le faire.
C'est ce que vous dites, et voilà. C'est terriblement efficace, bien évidemment. Parce que on considère que l'or noir du promoteur, c'est le foncier. On dit c'est le foncier. C'est la matière première. Mais si on analyse bien les choses, le foncier est une des composantes, finalement, de ce qui va sortir. Et le foncier, quel est-il? Marc rappelait très justement que tout ce qui nous entoure et ce qui sera construit existe déjà autour de nous. Et qu'il faudra bien nécessairement reconstruire la vie sur elle-même. Sauf que la différence, c'est que vous, vous avez pris à bras-le-corps une cause qui est une cause, j'allais dire, presque philanthropique.
Qui est une cause qui est également très business. C'est-à-dire que...
Ah bon Vous dites.
Oui, je pense que vous avez raison. Vous parliez d'inflation normative sans précédent. Et on a même de temps en temps quasiment l'impression qu'on est dans une rivalité entre une performance économique d'un
très
côté
juste,
et
très
une
juste.
Performance Absolument. Écologique de l'autre.
On appelle ça même des injonctions contradictoires.
Exactement. Et de temps en temps, on entend dire, c'est cruellement d'actualité, qu'il faut lever des verrous réglementaires environnementaux pour favoriser le business. Non, je pense que le parti pris qui est le nôtre, il est à la fois évidemment très performant environnementalement, parce qu'on fait des immeubles bas carbone et on ne fait que ça, mais on veut également faire des immeubles qu'on arrive à mieux louer et qu'on arrive à mieux vendre. Et c'est pour ça également qu'on veut faire des immeubles bas carbone. On est convaincu que nos locataires veulent des immeubles bas carbone. On est convaincu et on constate que nos locataires veulent des immeubles qui soient pour eux finalement bien plus que uniquement un moyen de loger leurs salariés. Nos locataires sont à la recherche en fait de temps en temps d'un manifeste. D'un manifeste pour une nouvelle manière de travailler, mais également d'un manifeste pour exprimer un virage écologique ou alors un virage stratégique qui a été fait. On le voit par exemple dans l'inauguration du siège de GRDF, qu'on a fait il y a quelques semaines. Lorsque GRDF vient nous voir pour construire son nouveau siège social à Saint-Denis, on était au début 10 sur la ligne de départ. GRDF voulait 25 000 m² pour développer son siège sur le secteur de pleine commune. Il y avait d'autres immeubles. La raison pour laquelle GRDF décide de venir dans un immeuble WO2, c'est avant tout parce que GRDF, c'est une entreprise qui a opéré un virage stratégique du gaz naturel vers le biogaz et elle veut que son siège social soit en fait le reflet et un manifeste de ce virage stratégique.
Oui, c'est logique.
Et donc,
logique.
On voit bien que finalement, il n'y a pas du tout d'opposition entre une performance environnementale et une performance économique. Au contraire, finalement, les deux se rejoignent totalement. Par contre...
Donc, pardonnez-moi, vous faites se réconcilier finalement des objectifs purement économiques avec des objectifs sociétaux.
Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on arrête de dissocier cette performance écologique et cette performance économique. Par contre, le drame, c'est la multiplication du cahier des charges. Et quand vous disiez chaque promoteur arrive avec un cahier des charges, on peut aussi dire chaque locataire arrive avec un cahier des charges. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour l'utilisateur ou même pour l'investisseur de s'y retrouver. Parce qu'il y a énormément de certifications qui existent, il y a énormément de labels qui existent. Ces labels et ces certifications couvrent des scopes qui sont extraordinairement larges. Et de temps en temps, des sujets qui sont essentiels, comme le sujet de l'empreinte carbone d'un bâtiment, sont mis sur le même plan que d'autres sujets qui, à mon avis, sont moins essentiels sur, de temps en temps, est-ce qu'on a mis des ruches sur le toit ? De temps en temps, est-ce qu'il y a des nichoirs à insectes ? De temps en temps, est-ce qu'on a mis suffisamment d'abris à moineaux sur les terrasses ? Qui sont potentiellement des sujets intéressants, mais qui, à mon avis, passent dans un second plan par rapport à l'empreinte carbone et par rapport aux consommations énergétiques.
Les chiffres confirment. Alors, je suis 100% d'accord avec vous, les chiffres le confirment. Bien évidemment, le plus important, c'est effectivement l'ossature même, c'est-à-dire l'objet même central, qui est à la fois l'alliance entre une énergie qui va être extrêmement bien maîtrisée avec des coûts maîtrisés, mais aussi, bien évidemment, l'impact en termes de poids carbone, puisque là, du coup, il y a une corrélation dans la croissance et dans l'accroissement de la valeur. Damien, quand vous travaillez avec vos matériaux, est-ce que du coup, vous construisez ?
Tout à fait.
Parce que vous êtes toujours contractant général ?
Toujours concepteur, contractant général.
C'est extraordinaire, mais bravo. Hein. Je vous le dis, aujourd'hui, quand on est preneur, parce qu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent qu'on est promoteur ou on est promoteur-constructeur. Vous êtes également promoteur-constructeur. Je précise une chose. Comment vous faites, vous, pour avoir cette approche matériaux ? C'est une question que je poserai d'ailleurs à vous tous. Aujourd'hui, on s'est dit une espèce de bashing béton, alors que quand même, il existe, il faut quand même être honnête, des formules bas carbone en béton qui sont extrêmement bien conçues. Il y a de gros player, je pense par exemple Heidelberg Cement par exemple, qui est quand même un acteur important qui a mis au point ce type d'éléments, mais aussi bien évidemment les ossatures bois, la filière bois qui est en train de se massifier, qui est en train de se construire. Quand on est promoteur comme vous, avec le recul que vous avez, l'expérience qui est une PME familiale, comment vous abordez cette notion de mix matériaux et de nouveaux modes constructifs?
En fait, ça commence dès le départ, c'est-à-dire que c'est déjà il y a 60% de nos projets qui sont de la restructuration, de la réhabilitation. Donc là, on se pose pas la question.
Vous aussi, vous avez pris le virage, hein. C'est fou. Hein.
En fait,
de la régénération urbaine.
Bah, On n'a pas le choix. Quelque part, tout est là, les bâtiments sont vides, ils attendent d'être réutilisés, d'être utilisés autrement. Et donc, tout part de l'usage, de quelle surface on construit. On peut optimiser ça aussi et densifier les usages à l'intérieur d'un bâtiment. Ça commence par là. Tout ce qu'on ne construit pas, c'est du carbone en moins. Après, à partir du moment où on construit, où on réhabilite, où on étend, etc., notre première envie, elle est d'aller vers la construction bois, parce qu'effectivement, c'est le matériau qui stocke du carbone par rapport à tous les autres. Néanmoins, il y a certains endroits où ça ne fonctionne pas, soit la filière est mal organisée, soit on a des contraintes
et
techniques.
Parfois, on a besoin des deux.
Et la plupart du temps, c'est un mixte intelligent. C'est-à-dire que déjà avant, on construisait très souvent en béton et en acier, en utilisant le matériau là où il est performant.
Bien sûr.
Bah aujourd'hui, on construit en béton, en acier et en bois, ou plutôt en bois, en béton, en acier.
Est-ce qu'on construira moins en espace ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une notion de l'utilisation de l'espace ? On sait que le bureau, en moyenne, n'est occupé qu'à peu près 30% du temps, ce qui est incroyable. Hein, quand on y réfléchit bien, est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un gâchis du mètre carré ? Et quand on est sur des sujets, justement, de transformation et d'empreinte carbone, est-ce que vous êtes également sur des sujets, en fait, d'utilisation de l'espace, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on n'aura plus beaucoup de foncier disponible pour, par exemple, ramener un peu plus de logements, bien évidemment. Je vous poserai d'ailleurs aussi une question sur l'immobilier obsolète qu'on a en première couronne de Paris, qui est quand même un vrai sujet.
Cette notion d'intensité d'usage, elle est primordiale. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'un poids carbone au mètre carré, il faut parler du poids carbone en fonction de l'usage qui y est fait. Et donc, si le même mètre carré, il est utilisé 100% du temps ou s'il est utilisé 15% du temps, c'est pas du tout le même impact carbone.
Ah oui,
voilà, il faut bien le raisonner comme ça.
Mais c'est important, mais ça c'est nouveau comme concept, de dire qu'on va raisonner sur l'intensité de l'usage.
Oui, et c'est bien toute la problématique, c'est que si on n'est pas conscient du projet de sa naissance jusqu'à son exploitation, et qu'on fait que se passer la balle l'un après l'autre, il n'y a jamais cette notion-là qui émerge dans les discussions.
Alors, je vais donner la parole à Marc, mais Hugo, sur tout à l'heure j'ai utilisé un terme à vraiment à dessein, on va dire, je ne vais pas dire à bon escient, mais à dessein. Vous êtes d'accord que le processus de certification qui est mis en place est très, très, j'allais dire, nomenclaturé, c'est-à-dire très organisé, et comme reste également un facteur d'accroissement et de consolidation de la valeur.
Aujourd'hui, oui.
Oui, d'accord.
On est entièrement
d'accord. Il y a une vraie valeur ajoutée dans, justement, cette idée du tiers de confiance que vous êtes considéré comme un tiers de confiance.
Tout à fait.
Comme le sachant, l'expert, qui va dire, ben voilà, là, j'ai tel et tel point qui correspond exactement à ce que j'ai souhaité faire, parce qu'également, il y a des fonds qui sont levés, parce qu'également, ça a une valeur, une approche pour les utilisateurs. Enfin, il y a toute une...
C'est ce que je me suis noté. Aujourd'hui, les avantages d'une certification, de la certification, quelle que soit la certification, après, avec un organisme accrédité par le CONFRAC, on va avoir un avantage opérationnel. Fiabilité et suivi des performances. Anticipation des réglementations, j'en parlais tout à l'heure. Avantages sociétaux et environnementaux. Réduction de l'empreinte carbone, on en parle depuis tout à l'heure. Qualité de vie améliorée et les politiques RSE. Donc, les politiques RSE sont de plus en plus en train de se tourner vers justement le bas carbone aussi. On en parlait avec la construction du siège de GRDF. Tous ces éléments-là permettent justement vraiment de pousser le maître d'ouvrage à aller au-delà de la réglementation pour le monde de demain. Et nous, je le redis, hein, c'est comme ça qu'on veut accompagner les acteurs de la certification. On ne veut pas que la certification soit vécue comme une contrainte. Hein. Très souvent, on entend certification, on ne veut pas trop faire la certification. Mais justement, comment on peut accompagner aujourd'hui les acteurs de demain ?
Alors, on a compris, donc confirmer l'idée. Il y a des aspects financiers qui sont très importants. C'est un peu le nerf de la guerre. Alors, j'ai bien aimé quand Marc faisait la distinction, justement, où vous, finalement, vous réconciliez cette idée un peu, d'ailleurs, idéologique, hein, de dire entre l'écologie, un peu comme ça, qui s'accorde mal avec des aspects business. Moi, je pense que la pérennité de votre modèle, elle est aussi dans le modèle économique, bien évidemment. Pour être très clair là-dessus, on ne philosophe bien que le ventre plein. Mais la question, elle est la suivante. Vous levez des fonds, vous financez vos opérations. On est d'accord que, Damien, dans vos opérations, certification, c'est hyper important pour les aspects financiers purement de l'opération. Donc on pourrait même dire que dans l'aspect bilan, le certificateur est une des clés également du dispositif.
C'est primordial. Il y a même tout un tas d'investisseurs qui ne regardent même pas le dossier s'il n'y a pas de certification. c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était avant, oui. c'était un plus, on pouvait vendre un petit peu plus cher. Aujourd'hui, c'est juste, on ne vend pas si on n'a pas de certification.
Aujourd'hui, c'est clairement la norme.
C'est clairement la norme et c'est recherché, attendu, mais avant même d'ouvrir le dossier. Quoi.
Marc ?
À la fois, c'est recherché et attendu, et à la fois, je pense qu'il y a un vrai rôle que doivent avoir les certificateurs, mais également les promoteurs, les développeurs, les architectes, c'est d'expliquer finalement que tous les certificats et tous les labels ne se valent pas, et d'expliquer aux investisseurs ce qu'il faut qu'ils aillent chercher pour avoir un portefeuille qui est véritablement un portefeuille bas carbone, un portefeuille basse consommation. Parce que vous parliez tout à l'heure finalement de cette notion d'usage du bâtiment. Finalement, le meilleur moyen de s'assurer qu'on est en train de créer un bâtiment qui maximise son intensité d'usage, le meilleur moyen de créer un bâtiment de bureau dont on veut que l'intensité d'usage soit maximisée, c'est d'avoir un bâtiment dans lequel les gens ont envie de venir.
C'est très clair.
Et ça veut dire concevoir des bâtiments de bureaux qui soient en effet radicalement différents de ce qui s'est fait ces 20 ou 30 dernières années.
C'est un lieu d'expérience, un lieu où on aime aller, c'est quoi ?
Je pense en effet qu'il faut redonner envie aux gens de venir au bureau. Ça veut dire des bureaux mieux qu'à la maison. Ça veut dire des bureaux où on arrête de concevoir ces bâtiments comme de beaux objets, soit financiers, soit techniques. Je vais vous prendre un contre-exemple, c'est la tour du début des années 2000. La tour du début des années 2000, c'est un bel objet financier parce que sur un petit bout de terrain, on a maximisé la constructibilité, on est monté haut. Et puis la tour du début des années 2000, ça peut être aussi un bel objet technique puisqu'on a optimisé, par exemple, la température à l'intérieur des plateaux parce qu'on a des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de réguler la température lorsque vos fenêtres ne s'ouvrent pas. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a créé un bâtiment dans lequel les gens ont envie d'aller ? Est-ce qu'on a créé véritablement un bâtiment qui va maximiser l'intensité d'usage ? La réponse est non. Donc en effet, on doit être dans une logique qui est radicalement différente et on doit se recentrer sur l'utilisateur, la personne qui est assise au poste de travail. La personne qui est assise au poste de travail, c'est pas elle qui va être intéressée par les labels et les certifications de notre opération. Par contre, la personne qui est assise au poste de travail, elle veut un bâtiment dans lequel elle peut ouvrir les fenêtres, un bâtiment dans lequel elle a du volume, un bâtiment dans lequel elle a des terrasses, des espaces extérieurs.
Elle va vivre une expérience.
Dans lequel, exactement, elle va vivre une expérience qui est radicalement différente. Et je pense que la réponse au télétravail et au fait que les gens viennent de moins en moins des bureaux, c'est aussi...
Et c'est même une belle mesure d'égalité sociale, parce qu'on rappelait, on en a parlé en visio, vous et moi, on n'a pas tous le même logement pour faire du télétravail.
Le télétravail peut être en effet cruellement inégalitaire.
Absolument, il l'est par nature.
C'est très agréable lorsqu'on a un pavillon, lorsqu'on a une super connexion Internet dans sa maison secondaire. Mais lorsqu'on a en effet deux enfants, un petit appartement, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc je pense que l'immeuble de bureau peut permettre et doit permettre finalement de répondre à ces nouvelles attentes des utilisateurs. La crise du Covid qu'on a connue, qui a accéléré finalement la maturité numérique et donc le recours au télétravail chez beaucoup de gens, a été le révélateur de ça. Et je pense que la bonne réponse finalement à cette crise, c'est de recréer des bâtiments dans lesquels les gens ont envie d'aller. Parce qu'on voit que ça correspond à un vrai besoin des utilisateurs et c'est finalement la meilleure réponse à cet isolement que peut produire...
Et vous êtes financièrement soutenu, donc on réunit finalement tous les trucs. Je vais devoir rendre l'antenne, mais je voudrais qu'on fasse... on va pas se priver de faire un peu de pub sur deux opérations un peu iconiques que vous avez fait, que vous avez réussi. Je vais commencer par vous, avec le groupe Patriarche. Décidément, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce nom. Il faut venir nous voir à Paris, dans nos studios. Il faut que je fasse un truc autour du nom, il y a un truc. S'il y a un directeur marketing, franchement, il a été malin en disant ça s'appelle le groupe Patriarche. Le Sully à Dijon, Santé Neuve à Dijon, 5 960 m², bâtiment tertiaire neuf, bien sûr avec bâtiment basse consommation, c'est presque iconique. Il y a cette opération, je voudrais que vous nous en parliez quelques mots, mais je voudrais aussi citer celle de Saint-Apollinaire, 3 132 m², exactement dans les mêmes configurations. Ce sont des objets qui suscitent la fierté du groupe. Hein.
Alors tout à fait, déjà parce qu'on est en Bourgogne, donc on revient aux origines de la famille.
Oui.
Donc ça compte. Et surtout sur ce bâtiment Santé Neuve, où quelque part on est dans une espèce de partenariat public-privé, où il y a deux écoles qui cherchent à se loger, mais qui n'ont pas les moyens de payer un loyer à la hauteur d'un bâtiment classique.
Bien sûr.
Donc nous on vient et on arrive avec la solution d'être exploitant du bâtiment et de leur dire... Vous êtes deux écoles, il y a des choses que vous allez créer en double. Si vous faites chacun votre projet de votre côté, nous, ce qu'on vous propose, c'est de venir créer vos espaces communs, de gérer vos espaces communs, de gérer vos réservations de salles et de maximiser
et de mutualiser
l'intensité d'usage, justement. Et donc, en faisant ça, on crée un bâtiment plus petit que le besoin additionné. Et en même temps, bah, avec un impact carbone bien moins fort.
Et Saint-Apollinaire, c'est...
Alors, c'est le même genre de projet, mais sur un sujet très, très industriel, beaucoup plus industriel, activités, bureaux, etc., où on vient construire un bâtiment tout en bois dans un parc d'activités classique. Donc, c'est vraiment le projet humble par nature, mais qui se retrouve partout en France, dans toutes les régions françaises, et sur lesquelles on a un véritable lien avec l'économie locale.
D'ailleurs, sur votre site internet, on peut avoir toutes ces informations.
Tout à fait.
Sans aucun problème.
Alors, pas patriarche.com, parce que ça, c'est le vin, mais
ouais.
patriarche.fr.
Voilà, ouais, absolument. www.lepatriarche.fr. On va le noter, notre ami Théo va le faire. Je voudrais citer aussi, également, si vous permettez, Marc, deux opérations. C'est Urbia Clichy.
Ah oui, la traversée.
Voilà.
Rue Henri Barbusse.
15 787 mètres carrés, ainsi que la tour CB3 Courbevoie, avec 34 000 mètres carrés quasiment.
Oui, c'est deux opérations qui sont intéressantes.
Du volume.
Alors, un, c'est deux
impressionnant.
C'est deux opérations d'une certaine taille. Surtout, ce qui est intéressant avec les deux opérations que vous citez, c'est que c'est des opérations qui ne sont pas en structure bois, en fait. Ce sont deux opérations de rénovation bas carbone. Alors, je ne sais pas comment vous les avez choisies, mais ça montre également que finalement, la construction bas carbone, c'est également et surtout conserver le carbone amorti. Je vais commencer par la première, la traversée, 16 000 m² à Clichy. C'est un immeuble qui est récent. C'est un immeuble qui a été livré en 2009. C'est cruellement récent, en fait, pour un immeuble.
C'est clair.
Et pourtant, lorsqu'on l'a acheté, il était déjà cruellement obsolète. Cruellement obsolète sur le plan...
Alors, il y a une façon d'expliquer les choses et il te met d'accord tout de suite.
Non, mais ouais. Il avait une façade rouge et marron qui était vraiment passée de mode, qui avait assez mal vieilli. Il était cruellement obsolète sur le plan des usages, puisqu'en fait, on avait des petits noyaux, des petits halls. On donne sur un parc de 1 hectare et pourtant, on tournait complètement le dos au parc. Et puis, cruellement obsolète sur le plan des consommations énergétiques, puisque c'était un bâtiment qui avait été conçu, réalisé à l'ère de la RT 2005 et qui avait des consommations qui n'étaient pas du tout ce qu'on peut attendre d'un bâtiment de bureau moderne. Il a été occupé de 2009 à 2018, il était vacant depuis. Cet immeuble, on l'a racheté. Pourquoi est-ce qu'on l'a racheté ? Un, il avait d'excellents fondamentaux. Une localisation dans le Clichy, très sympa, on est à 300 mètres carrés, on est à 300 mètres à vol d'oiseau du 17e. On donne sur ce grand parc de 1 hectare qui est exceptionnel. On avait l'opportunité, et c'est pour ça qu'on a appelé cet immeuble à traverser, de créer une traversée vers le parc à travers notre immeuble. Donc on est venu sacrifier des places de parking, parce qu'on était complètement imperméable sur un parking. On est venu sacrifier des places de parking pour retrouver un parc intérieur et pour créer une traversée vers ce parc de 1 hectare. Deuxième élément qui était essentiel, il avait d'excellents fondamentaux en termes de structure. En fait, il avait une forme très rationnelle, un dalle à dalle qui était très bon, peu de poteaux. Et donc, on a racheté ce bâtiment parce qu'on avait l'ambition de proposer le premier bâtiment BBCA Rénovation Excellence de France. Et je pense qu'on va réussir à réaliser cette opération qui sera la plus grande jamais labellisée BBCA Rénovation Excellence en France. Lorsqu'elle sera livrée en tout début d'année prochaine. Et au-delà, finalement, d'une empreinte carbone exceptionnelle, on a voulu démontrer avec cette opération qu'on pouvait, avec énormément de réemploi, donc on réemploie toute la structure, on réemploie une partie des façades, on réemploie une partie des lots techniques, on réemploie une partie des lots architecturaux,
c'est top,
avoir une empreinte carbone qui, pour la première fois, passait sous le seuil des 500 kg de CO2 équivalent par mètre carré, et avoir un produit qui correspondait en tout point aux nouvelles attentes des utilisateurs, en le tournant complètement vers le parc. Et puis l'autre opération dont vous parliez, CB3, elle est aussi intéressante. CB3, c'est pareil, c'est un immeuble qui était vacant depuis 2016. C'est un immeuble de la Défense. La Défense, c'est un marché qui est extrêmement intéressant. C'est le symbole de ce dont on parlait. C'est-à-dire que la Défense,
vous avez
des immeubles qui sont pleins et que les gens s'arrachent. Et vous avez d'autres immeubles à côté qui sont vides.
Et c'est d'ailleurs une des plus grosses vacances dans le secteur de la Défense.
Et y a une
on approche les 14% de vacances.
Voilà, entre 14 et 15% en fonction des sources. Alors que c'est un emplacement qui est absolument exceptionnel. La Défense, lorsque vous prenez le hub de transport en commun de la Défense, que vous rajoutez le RER E qui est arrivé de la ligne 15, vous avez 4 millions de personnes qui habitent à moins d'une demi-heure en transport en commun de la Défense. C'est un des hubs, comme il en existe extrêmement rarement en Europe et dans le monde. Donc on est sur un site à la localisation exceptionnelle, et pour autant, on a au sein de cette même localisation des immeubles que tout le monde s'arrache et des immeubles qui restent vacants. Donc la Défense, c'est finalement la démonstration que c'est pas qu'une notion de marché, c'est aussi une notion de produit. Lorsque vous proposez le bon produit dans un bâtiment à la Défense, évidemment, ils trouvent preneur. CB3, c'est une opération qu'on a rachetée, qui était une opération en IGH. Donc c'était un immeuble de grande hauteur, parce que le camion de pompier ne montait pas sur la dalle de la Défense. Et donc il y avait des précédents projets où on construisait au-dessus de l'immeuble et puis on montait de plus en plus haut et puis on renforçait du coup de plus lourdement les infrastructures avec du carbone et puis des coûts en infra. Et ces projets avaient du mal à trouver un équilibre économique. Nous, on a changé d'approche. On a proposé un bâtiment où on déclassait l'immeuble. Donc on le repassait en code du travail, on perd légèrement de surface, mais ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet de ramener beaucoup de bois en façade notamment. Ça nous permet d'avoir des fenêtres qui s'ouvrent. Ça nous permet d'avoir des grands plateaux complètement dégagés. Ça nous permet de rajouter des grands escaliers qui permettent de relier les plateaux. Ça nous permet de proposer en rooftop une terrasse accessible avec deux restaurants qui vont pouvoir accueillir près de 2/3 des effectifs de l'immeuble en restauration. Ça nous permet de proposer un grand hall dans lequel on peut à la fois avoir des espaces de commerce, des espaces d'échange. Donc vous voyez qu'en fait, en construisant peut-être un peu moins, mais avec une approche qui est radicalement différente, on peut, sur cette opération de CB3, proposer un immeuble aux caractéristiques exceptionnelles.
On a les informations sur le site internet également de WE2. On peut les voir.
Sur CB3,
Pas sûr.
Mais on va quand même mettre l'adresse. Parce que c'est une opération récente.
On va quand même mettre la traversée,
évidemment.
Bien sûr, on va mettre l'adresse de l'URL, donc de WOD sur le site internet en bas du podcast, les amis. Voilà, moi je resterai bien une heure ou deux avec vous en plus. Mais toujours un plaisir. Il a une façon lyrique, Marc Lafond, de dire les choses. Ouais. On voit littéralement ses paroles. Moi je vous ai dit, il faudrait que vous écriviez et que vous conceptualisiez.
Vous m'avez dit.
Et je m'engage,
on est bien occupé.
Et je m'engage à vous éditer. Bien évidemment. Non, c'est vrai. Non, mais je trouve ça intéressant parce que le fait de prendre la hauteur avec justement des alliés extrêmement importants comme les certificateurs et prestataires en l'occurrence, et justement avec l'éclairage d'acteurs et de players du secteur sur lequel finalement je trouve qu'il y a énormément de dénominateurs communs dans votre vision des choses. Et je pense que pour être très clair, elle est pérenne sur le plan du business, sur le plan de l'équilibre économique. Donc il n'y a pas d'injonction contradictoire et la nécessaire transformation de notre ville pour vivre mieux, parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on le fait pour les gens et pour le bénéfice exclusive de ceux qui l'utilisent. Je pense que c'est bien important. Et je crois que si la crise, d'ailleurs, devait nous enseigner une vertu, c'est celle de redécouvrir les vertus de l'acquéreur et de l'utilisateur. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est le patron de la SNCF Immobilier qui disait, enfin, on retourne aux fondamentaux avec l'utilisateur. Merci en tout cas à vous, Marc Lafond. Je rappelle que vous êtes le président emblématique de WO2. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Revenez, surtout sur le plateau. Bien sûr, Damien Patriarche, vous revenez. D'ailleurs, je vais faire un rond de serviette gravé. Damien Patriarche, voilà, pour Radio Immo, j'étais ravi de vous voir. On retrouve d'ailleurs l'adresse de votre site internet sur le podcast, en rappelant bien que c'est .fr, bien évidemment. Merci d'être venu sur le plateau de Radio Immo. Un immense merci à Hugo Zamboran. Là, c'était sa première, Hugo.
Oui.
Voilà. Comment ça s'est passé?
Très bien. Hein. Je bois les paroles.
C'était bien. Alors, avant de vous dire à tous, justement, au revoir, et on va se retrouver pour un truc, je vous propose un tout petit jeu rapidement pour conclure. Je vais vous demander à chacun de me donner un mot, un adjectif qui qualifie les propos que l'on vient d'échanger. On va commencer par vous, Damien.
Adaptabilité.
Adaptabilité, intéressant. On ne l'avait pas fait celle-ci. Adaptabilité, d'accord. Ok. Marc, un mot.
Développement.
Pas mal. Hugo.
Flexibilité.
Flexibilité.
Oui. Rapidement, ils ont parlé de projets qui sont différents.
Voilà.
Chez Prestataire, on sait s'adapter justement à chaque projet.
Alors, savoir s'adapter, c'est savoir finalement développer sa flexibilité pour amener véritablement un développement en calibrant une adaptabilité pour le bien exclusif des utilisateurs. Ce sera la conclusion de cette émission. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau. Il est 17h15, on a un tout petit peu de retard, mais on enchaîne toujours ici au CIMI Porte Maillot. On vous invite bien sûr à nous rejoindre.
Merci.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solaré IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.